France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui, une histoire du chocolat. Abstenez-vous de tout aliment jusqu'à nouvel avis. Je vais faire l'impossible pour vous faire parvenir du chocolat. Stada. Deux mille ans d'histoire. On raconte qu'il y a très longtemps, quelque part au Mexique, le dieu de la végétation, Quetzalcoatl, cultivait dans son jardin un arbre au tronc gris-argenté, dont le fruit servait à préparer une boisson étrange. Parce qu'il la préparait avec de l'eau bouillante, les Indiens l'appelaient le chocolaté, l'eau qui fait du bruit. Boisson sacrée des Indiens, le chocolat avait pour eux tant de valeur que lorsque Cortés arriva au Mexique, en leur demandant de l'or, les Aztèques lui offrirent des fèves de cacao. Et c'est ainsi qu'au début du XVIe siècle, en même temps que d'autres produits inconnus, le maïs, le tabac, les haricots, la pomme de terre ou la tomate, le chocolat arriva un jour en Europe, dans les cales des caravelles espagnoles.
Tenez, jamais vous n'avez rien goûté d'aussi délicieux.
N'envisagez même pas que ce soit possible.
Vous aimez ?
J'aime. Cela ne peut être qu'un péché. Comment appelle-t-on cela ?
Du chocolat. Les moines espagnols nous l'envoient en briques.
Daniel Montaud, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était l'arrivée en Espagne d'un produit dont personne, avant le XVIe siècle, n'avait encore jamais entendu parler en Europe, le chocolat, auquel vous venez de consacrer un joli petit livre publié chez Aubanel. Alors, le chocolat, dont l'histoire, vous le rappelez, a commencé bien avant l'arrivée des Espagnols en Amérique.
Oui, c'est beaucoup plus de 2000 ans d'histoire pour le cacao.
On triche complètement, il faut remonter
à l'époque précolombienne et aux Mayas, puis aux Aztèques, pour retrouver donc les traces du chocolat. L'histoire véridique, c'est quand même les Aztèques avec le XIVe siècle. Préalablement, il y avait un mélange de légendes, de mythes autour du chocolat et de réalité, en fait.
Alors, le chocolat, dont les Aztèques étaient très friands, pour différentes raisons d'ailleurs, il y avait son goût sûrement, mais il y avait aussi d'abord le fait qu'il avait la réputation d'être un stimulant, qu'il a toujours gardé d'ailleurs, et puis aussi d'être un aphrodisiaque.
Oui, alors il y a toujours eu dans le cacao ce mélange de thérapie, de soutien moral, physique. Hernán Cortés, quand il est arrivé d'ailleurs avec ses conquistadors, a parfaitement ciblé tout de suite, puisqu'il a décidé de le ramener dans le siècle d'or espagnol.
Il est vrai que l'empereur aztèque Moctezuma, je vous le dites, allait rentrer dans son harem après avoir bu quelques tasses de chocolat. Hein. C'est vrai aussi que les Aztèques, je crois, le buvaient parce que c'était une boisson et avec du piment.
Alors, à l'origine, il faut savoir que l'intérieur de la cabosse n'avait pas intéressé immédiatement les consommateurs.
La cabosse, c'est le fruit dans lequel il y a les fèves de cacao.
La cabosse, c'est l'entourage. Hein. En fait, au départ, ils ont commencer à déguster l'espèce de magma blanc qui entoure les fèves et qui était une boisson astringente. Et puis, ils ont essayé d'utiliser les fèves, ils les ont écrasées, ils en sont servis comme médicament pour soigner les brûlures, les plaies. Puis, un beau jour, ils se sont dit, mais finalement, les oiseaux, les singes dégustent ces fèves, pourquoi on ne ferait pas la même chose? Ils les ont écrasées, ils en ont fait un liquide qu'ils ont agrémenté de différents piments, qu'ils ont coloré avec un roucou, qui est une poudre rouge, pour donner l'aspect du sang.
Un liquide, et alors aussi, un liquide qu'ils aimaient bien, et aussi une monnaie.
Oui, alors, dès l'origine, les fèves ont été utilisées comme unité de compte et comme monnaie, et jusqu'à très tard, puisque jusqu'au XVIIe siècle, on a utilisé les fèves de cacao et la monnaie légale pour faire des transactions commerciales.
Et on a donné à Cortés, et c'est comme ça que ça a traversé l'Atlantique. Ça arrive, c'est longtemps resté d'ailleurs en Europe, c'est longtemps resté en Espagne. Hein. Et alors, vous dites que ça avait tellement de succès que les dames de la haute société espagnole allaient même dans les églises en buvant du chocolat.
Alors, les dames de la haute société espagnole sur le continent européen, mais également les dames de la société espagnole dans la Nouvelle-Espagne, au Mexique. Donc, elles arrivaient à la messe et elles demandaient à leurs serviteurs d'apporter au milieu de la messe qu'elles trouvaient beaucoup trop longue la boisson chocolatée, ce qui exaspérait évidemment les ecclésiastiques qui l'ont interdit à une époque, et leurs églises se vidant, ils ont été obligés eux aussi d'en consommer et d'en consommer avec leurs fidèles.
Même le pape, hein, dites-vous, consommait à un moment donné du chocolat. Il y en a même un, on en donnait aux cardinaux parce que les conclaves, au moment de l'élection d'un nouveau pape, les conclaves étaient trop longs, alors ça leur permettait de tenir le coup.
Oui,
parce
absolument.
Que la salle du conclave était totalement fermée.
Absolument, donc on leur servait leur équivalent, soit en poids, soit en lien hiérarchique, pour pouvoir tenir pendant toute la durée de ces conclaves. Et il faut savoir d'ailleurs qu'un des papes qui en était grand consommateur a été empoisonné de cette façon-là.
C'est au chocolat.
Clément
XIV. C'est une belle mort, hein, remarquez.
Oui. Bon.
C'est marrant parce que l'Église s'y intéresse beaucoup. Il y a eu un très long débat aussi, dites-vous, pour savoir si on pouvait consommer le chocolat pendant le carême.
Alors, c'est un débat qui a duré un peu plus d'un siècle. Et on s'est demandé si le chocolat était un élément liquide ou solide. Saint Thomas d'Aquin ayant indiqué que les liquides ne coupaient pas le jeûne, le grand débat donc consistait à savoir si la boisson chocolatée pouvait rompre le jeûne ou pas. Et là, on a terminé au bout d'un siècle et demi par un jésuite, Brancaccio, qui a indiqué que celui qui boit le chocolat liquide ne rompt pas le jeûne, mais celui qui le laisse fondre dans l'eau chaude le rompt. Voilà.
Alors parmi ces gens-là, justement, qui en consommaient, ben, il y avait aussi, c'est arrivé tardivement, mais il y avait en France un roi, Louis XIV, qui appréciait beaucoup les vertus aphrodisiaques du chocolat.
Monsieur Valdez !
Je vois que nous avons le même goût.
Quel goût ?
Pour les femmes. L'une d'elles a cru bon de repousser mes avances d'une façon qui s'est avérée très stimulante. Le roi ira la voir ce soir. Je suggère que nous marquions l'événement. Je voudrais que vous prépariez une confiserie. Madame.
Monsieur le marquis.
Le roi vous adresse ses compliments. Et réclame la faveur de prendre un chocolat avec vous dans votre chambre à minuit.
Avec moi.
Puis-je me permettre de vous féliciter ?
Et c'était un extrait du film Vatel, l'époque où les Français et leur roi appréciaient le chocolat, découvraient le chocolat, pas seulement on vient de l'entendre pour son goût. En fait, on le connaissait déjà en France avant Louis XIV.
Oui, tout à fait. Le chocolat a été introduit en France par les Juifs espagnols et portugais qui ont été expulsés donc de ces deux pays et qui, dans ces pays-là, étaient les seuls à exploiter le commerce du cacao et du chocolat. Donc, quand ils ont été expulsés de ces deux pays, ils se sont installés sur la bordure la plus proche de ces deux pays, donc Bayonne, et ils ont recommencé leur commerce et leur production de cacao.
Bayonne, où se trouve avec Toulouse les plus anciennes chocolateries de France, je crois,
oui.
Et où on cultive encore la tradition du chocolat. Je crois qu'il y a de très bonnes chocolateries.
Il y a de très bonnes chocolateries.
Il y a un
très beau musée à Bayonne qu'il faut aller voir parce qu'il y a de très jolis objets, les pierres à chocolat notamment sur lesquelles on travaillait le chocolat à l'époque. Et donc les objets chocolatières, les terres cuites, et c'est un très beau musée qu'il faut aller voir.
Alors il n'y a pas que les Juifs d'Espagne qui ont amené du chocolat en France, il y a aussi deux reines de France, hein, les épouses de Louis XIII et Louis XIV, qui venaient d'Espagne, qui étaient espagnoles et qui sont venues avec leur chocolat.
Oui, absolument. Alors en dehors des Juifs portugais et espagnols, c'est effectivement un aspect très romantique chez nous, puisque c'est autour de deux mariages, celui d'Anne d'Autriche avec Louis XIII et celui de Marie-Thérèse d'Autriche, autre princesse espagnole, avec Louis XIV, qui ont introduit la consommation et développé la consommation à la cour de France et en ont fait un produit d'élite.
Et d'élite, alors pour l'élite, hein, évidemment, puisque le roi boit, le roi et la reine boivent, tout le monde boit, parce qu'on le buvait encore, hein, pour l'essentiel. Alors parmi tous les amateurs de chocolat de l'époque, il y a une femme assez amusante qui est Madame de Sévigné, parce que elle aimait beaucoup le chocolat, en même temps elle s'en méfiait énormément, et un jour elle raconte comme ça un potin de la cour, en parlant d'une grande dame de la cour, la marquise de Coëtlogon prit tant de chocolat, étant grosse l'année passée, qu'elle accoucha d'un petit garçon noir comme le diable.
Oui,
ça, c'est une vertu inattendue.
Oui, c'était la période négative de Madame de Sévigné. C'est vrai que Madame de Sévigné a été aussi compliquée que le chocolat peut l'être dans son approche du produit. Cette référence à l'enfant noir, en fait, on peut peut-être l'expliquer parce qu'on a vu ensuite que la personne qui lui apportait le chocolat le matin à son petit déjeuner était un serviteur de couleur noire. Ceci peut peut-être expliquer cela.
C'était une belle excuse. En tout cas, après la marquise de Sévigné, il y a d'autres grands écrivains qui s'y intéresseront plus tard. Il y a Casanova, il y a le marquis de Sade, dites-vous aussi, Balzac, Stendhal, Goethe, Alexandre Dumas, qui s'intéressent donc, qui sont des amateurs de ce qui va bientôt devenir une industrie.
Bonjour mes amis et bienvenue dans ma chocolaterie.
Du chocolat. Une rivière chocolatée.
J'ai jamais vu quelque chose d'aussi extraordinaire.
38 000 litres de débit à l'heure. Et vous avez vu cette chute? C'est le pilier central de mon invention. C'est mon mélangeur de chocolat. Que dis-je? Mon brasseur de chocolat. Et c'est la seule fabrique qui mélange le chocolat par hydrocao. Alors, la chocolaterie t'a plu, Charlie?
C'est l'endroit le plus merveilleux qui existe au monde.
Et c'était la musique du film Charlie et la chocolaterie, qui prouve qu'il n'y a pas d'âge pour aimer le chocolat, Daniel Monteau. Mais alors on connaît mal en revanche toutes les étapes qui permettent justement, à partir de la fève de cacao, d'obtenir du chocolat, des chocolats d'ailleurs, parce que ça a beaucoup changé. Vous dites qu'il y en a 10, c'est assez long. Hein,
il y en a plus de 10, je pense que c'est le produit aujourd'hui qui est le plus transformé au monde. On compte plus d'une dizaine de transformations, déjà 4 ou 5 sur place, puisque vous avez la récolte, les cabossages, la fermentation, le séchage sur place. Ensuite, les fèves sont envoyées sur le continent. Puisqu'il faut savoir que 80% de la production est traitée dans les pays consommateurs et non pas dans les pays producteurs. Ensuite, là, on passe à la transformation des fèves de cacao en pâte de cacao avec plusieurs étapes telles que le conchage qui est très très important. C'est la possibilité de faire une pâte très malléable et qui permettra de façonner le chocolat.
Il est souvent question aussi du beurre de cacao, c'est quoi ?
Alors, le beurre de cacao, c'est cette matière grasse dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui permet au chocolat d'être fondant, d'être brillant, de pouvoir avoir une tonalité neutre, ce qui n'est pas le cas d'autres graisses végétales comme l'huile de palme. Et le beurre de cacao a cet avantage extraordinaire de pouvoir fondre dans la bouche à 30 et 30 degrés, à peu près, température de la bouche, et de rester solide entre les doigts, puisque les doigts sont à 20-25 degrés.
Oui, parce que justement, cette industrie qui impose toutes ces étapes de la transformation, cette industrie, on fait beaucoup plus qu'à l'époque de Madame de Sévigné, où on se contentait essentiellement de boire du chocolat. Elle fabrique toutes sortes de variétés de chocolat, solide ou liquide. Hein, vous évoquez le fait que très tôt déjà, je crois, les Espagnols avaient du chocolat solide qu'ils fabriquaient, qu'ils vendaient sous forme de boudin, c'est ça ?
Oui, alors, dès l'origine, dès le 15e siècle, on a retrouvé des images où on voyait ce qu'on appelait les boudins à l'espagnol, c'est-à-dire c'était des fèves, de la pâte de fèves en fait, hein, qui était écrasée et enroulée pour pouvoir la conserver et la transporter. Et puis très vite aussi, dans les monastères de la Nouvelle-Espagne, certaines religieuses avaient fabriqué des pastilles de chocolat. Et elles avaient rajouté à la fève écrasée du miel et des édulcorants de manière à le rendre plus doux. Ça, c'est un peu les origines de nos tablettes actuelles.
Alors, il y a eu aussi d'autres grandes étapes un peu plus tard, au 19e siècle, l'invention par Van Houten du chocolat en poudre.
Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que l'industrialisation a été le détonateur de la consommation et de la production de cacao, avec la construction de machines hydrauliques qui ont permis de traiter différemment le chocolat. Van Houten, pour sa part, a donc inventé le chocolat en poudre en ayant un procédé qui permettait de faire ressortir le beurre de cacao autrement qu'en l'écumant et avoir cette matière première qui est beaucoup plus malléable.
Et puis alors, il y a évidemment les tablettes qui sont fabriquées par quelques grandes entreprises industrielles et familiales, hein, dont tout le monde connaît le nom ou se souvient du nom, parce que certaines ont disparu, Meunier, Poulain, Suchard, Colère, Nestlé, qui invente, il invente la poudre de lait, ce qui a permis l'apparition, je crois, à la fin du 19e, du premier chocolat au lait.
Oui, absolument. C'est la rencontre de deux Suisses, Nestlé, qui avait inventé le lait en poudre, et d'un autre Suisse, Daniel Peter, qui eut l'idée d'utiliser ce lait en poudre et de l'associer au chocolat, de façon à créer le chocolat au lait.
Puis il y en a d'autres, anglo-saxons, Cadbury, Hershey, qui sont d'ailleurs les premiers à introduire des graisses végétales qui ne sont pas du beurre de cacao et qui vont permettre d'ailleurs de mieux conserver le chocolat, permettre aussi la fabrication des premières barres chocolatées avec un Américain, Forrest Mars, en 1925, et cela avec un chocolat qui ne vient plus nécessairement des pays où les Espagnols l'avaient découvert au XVIe siècle.
Amor del alma, pa que mañana pasa. Amor del alma, y haga lo mismo que yo. ¿Cuál es la flor del cacao?
¿Cuál es la flor del romero?
¿Cuál es la flor del cacao?
¿Cuál es la flor del romero?
¿Cuál es la mujer que pone
su amor en tu parrandero?
¿Cuál es la mujer que pone
su amor en tu parrandero?
Pero dale que dale
su amor en tu parrandero.
Pero dale que dale
su amor en tu parrandero.
Et vous entendez fleur de cacao, une chanson vénézuélienne venue donc d'un continent qui n'est plus depuis longtemps, vous le dites, Daniel Manteau, la première région productrice de cacao. C'était la seule autrefois, maintenant elle est largement dépassée par l'Afrique.
Oui, on n'a plus parlé de dérive des continents en termes de production de cacao. L'origine, c'est donc l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale ensuite. Ensuite, au moment où les Européens l'ont introduit sur le continent européen, la consommation de ces pays a déplacé la production vers les pays africains.
Et c'était aujourd'hui, l'économie en plus. Oui.
C'était l'économie, bien sûr. Et il y avait des intérêts commerciaux, notamment britanniques, importants derrière, puisque les premiers pays à développer cette production de cacao sont deux colonies britanniques, hein, qui étaient le Nigeria et le Ghana. Aujourd'hui, le premier pays producteur est la Côte d'Ivoire, le deuxième pays producteur étant le Ghana. Il y a eu des tentatives en Asie, avec la Malaisie. Puis ces pays se sont développés rapidement sur le plan économique et ont abandonné les plantations de cacao.
Tout ça quand même autour de l'équateur, parce qu'évidemment le cacaoyer nécessite des températures tropicales.
Oui.
C'est l'équateur.
Alors, l'arbre à cacao, au cacao, est un arbre très fragile en fait. Il lui faut de la chaleur, de l'humidité. Il lui faut être protégé des rayons du soleil. Et on plante à côté de ces arbres ce que l'on appelle des mères. Comme la mère protège l'enfant, l'arbre en question protège l'arbre cabosse. C'est un arbre qui développe ses capacités au bout de 5 ans et qui meurt au bout de 50 ans, donc assez fragile. Petit à petit, on a évidemment amélioré les gains de productivité, mais ça reste un arbre très très fragile, avec des zones qui restent
très beaux.
Très fleuri, avec de très jolies fleurs qui varient d'une qualité à l'autre.
Et qui pousse à même le tronc d'ailleurs.
Oui.
La cabosse, comme vous dites, elle est posée sur le tronc.
Elle est posée sur le tronc avec très peu de feuilles autour finalement et des fleurs très très jolies avant d'arriver à la cabosse.
Ce qui est amusant, c'est que parfois c'est pas forcément amusant d'ailleurs pour les pays producteurs, c'est que les pays producteurs sont loin d'être les premiers consommateurs. En tête, il y a les pays riches, et notamment les pays européens. J'ai appris en vous lisant aussi que en kilos par habitant, ce sont les Belges qui battent le record de la consommation avec près de 11 kilos par habitant et par an, c'est ça ?
Oui, presque le double des Français, donc on a encore beaucoup de terrain à occuper en matière de consommation de chocolat. Il faut manger beaucoup de chocolat pour rattraper les Suisses. Les Suisses et les Belges, puisque les Suisses arrivent en deuxième position. Puis l'Allemagne et l'Italie aussi. Et les Anglais, assez bons derniers sur la consommation de chocolat.
Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, un peu comme du vin. Vous dites qu'il y a différents crus, qu'il y a un peu l'équivalent des cépages pour le vin. C'est-à-dire qu'il y a trois grandes variétés importantes, dont la principale, en tout cas la principale, la plus importante, la meilleure, mais pas la plus abondante, c'est le criollo, c'est ça ?
Oui, alors, il y a trois grandes catégories de crus de cacao, dont les appellations existent depuis l'origine, depuis les origines mexicaines. Donc le criollo, le forastero et le trinitario. Le criollo est celui qui est le meilleur, qui est malheureusement aujourd'hui le plus recherché et dont la production a beaucoup chuté, puisqu'on arrive à 10 à 15% maximum de production, alors qu'au moment de l'invention du cacao au Mexique, on était à 100% de production de ces criollos. Les forasteros, c'est à peu près 80% de production, essentiellement dans les pays africains. Et le trinitario est un produit qui a été inventé dans l'île de Trinidad et qui a été repris à partir de fèves des deux autres crus, criollo et forastero.
Alors des cépages, hein, criollo, forastero et trinitario, dont dépend bien sûr la qualité des chocolats, à laquelle sont très attachés quelques amateurs très célèbres en France. France Inter, Denis Astagnaud, le 2 octobre 1993.
Quel est le point commun à Sonia Riquel, Irène Frein, Paulette Cocatrix, Robert Sabatier et vous peut-être qui êtes en train de petit déjeuner? Ne cherchez pas, c'est le chocolat. Les premiers nommés ont constitué un club des croqueurs de chocolat. Seulement voilà, ils s'inquiètent pour leurs tablettes, l'horizon est noir. Bruxelles, sous la pression des industriels de la confiserie, serait prêt à assouplir considérablement la législation et à transformer le bon vrai chocolat en bouillie pour les chats. Christian Bobby n'est pas emballé.
Si c'était le cas, cela reviendrait tout simplement à vendre sous l'appellation chocolat un produit qui n'en serait pas. Ainsi, le beurre de cacao serait alors partiellement remplacé par des graisses végétales comme l'arachide ou le colza. Il ne serait plus interdit d'utiliser de la farine de seigle, de l'amidon de maïs, voire de la fécule de pomme de terre. Enfin, les industriels souhaiteraient également que l'obligation de mentionner le pourcentage de cacao minimum soit purement et simplement supprimée.
Bref, si l'on en croit ce que l'on vient d'entendre, il serait question de fabriquer du chocolat sans cacao, Daniel Monteau, et avec dans votre livre, des MGV, matières grasses végétales, autres donc que le beurre de cacao. Est-ce que c'est ça l'avenir du chocolat ? Parce que c'est un peu triste.
J'espère que non, mais vous savez, la fraude alimentaire est une vieille histoire, puisqu'au 19e siècle, déjà, on constatait qu'on fabriquait des chocolats, alors c'était beaucoup plus grave qu'aujourd'hui, qu'on avait retrouvé des tuiles pilées dans la composition de certains chocolats uniquement pour leur donner la couleur rouge du chocolat criollo d'ailleurs. Donc on n'en est pas là aujourd'hui, heureusement, ça a été beaucoup plus réglementé. Le débat sur les matières grasses végétales autres que le beurre de cacao est un débat essentiellement économique, puisque ces matières grasses telles que l'huile de palme, de colza, coûtent beaucoup moins cher que le beurre de cacao.
C'est une question de prix en fait, c'est la raison pour laquelle on introduit ces matières grasses végétales.
Absolument, c'est une question de prix, ça coûte beaucoup moins cher à la fabrication. Donc ceux des artisans qui continuent à fabriquer avec du pur beurre de cacao et qui l'inscrivent sur leurs produits ont évidemment un chocolat qui est beaucoup plus cher, mais vu le nombre d'étapes de transformation et les méthodes de production, le chocolat ne peut pas être un produit bon marché. S'il est bon, ça n'est pas possible. On tombe dans des produits chocolatés qui sont d'un autre ordre.
Mais où est-ce qu'on en est justement de la législation ? Le chiffre qu'on a entendu, c'est de 93 maintenant.
Alors, aujourd'hui, il y a une directive européenne qui a été votée en l'an 2000, qui a été introduite dans notre droit positif en 2003, avec l'obligation de mentionner pur beurre de cacao pour les produits exempts de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao. Donc, on a déjà une sécurité pour le consommateur. Mais aujourd'hui, on peut introduire jusqu'à 5% de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao dans le chocolat, ce qu'on appelle le chocolat. C'est 5%, vous doutez bien que c'est quand même très difficile à contrôler et qu'à partir du moment où on ouvre une brèche, pourquoi pas 10% dans 3-4 ans. Et c'est vrai que les fabricants poussent un peu à l'introduction d'une masse supplémentaire pour faire baisser les coûts.
Mais après tout, si c'était meilleur, on pourrait le comprendre, mais ce n'est pas le cas, semble-t-il.
C'est pas meilleur, ça c'est sûr, puisqu'il y a un goût dans les autres matières grasses végétales, autres que le beurre de cacao, qui lui est neutre, n'a pas de goût du tout. Il est évident que c'est le consommateur qui fera la différence. Alors, à l'aveugle, on se rend assez peu compte si on a introduit des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao. Au toucher, oui. Et à l'aspect, oui.
En tout cas, ce n'est pas une raison pour ne pas exiger la qualité, même si c'est un peu plus cher. De toute façon, ça ne coûtera jamais le prix de 10 grammes de caviar, un excellent chocolat, Daniel Manteau.
Un bon chocolat, la qualité, aujourd'hui, ça se paye. Oui, la qualité se paye. Aujourd'hui, un bon chocolat a un coût d'environ entre 60 et 110 euros, à partir du moment où il est transformé. Une plaque de très bon chocolat à 200 grammes, c'est entre 5 et 7 euros.
Et puis c'est bon pour la santé, j'ai appris ça à la fin de votre livre, il y a une réputation qui n'est pas justifiée, vous dites même que ça retire, que ça empêche les caries, c'est quand même ça, alors vous êtes un peu loin quand même dans votre défense du chocolat, Daniel Manteau.
Ça n'empêche pas les caries, mais en tout cas si vous mangez du chocolat, vous n'aurez pas plus de caries que si vous n'en mangez pas.
Et ça reste un excellent stimulant, ça reste aussi un aphrodisiaque, ça vous le reconnaissez quand même. C'est plutôt bon pour la santé en fait.
C'est même très très bon pour la santé et surtout pour l'humeur. Donc quand c'est bon pour l'humeur, c'est certainement bon pour la santé.
Et puis alors aussi pour les défenseurs ardents du chocolat dont vous faites partie. On entendait tout à l'heure dans l'archive qu'il y avait des clubs de chocolat. Je crois que vous en présidez un.
Oui, effectivement, j'ai créé il y a un peu plus de 10 ans maintenant un club d'amateurs de chocolat dans le milieu professionnel où j'exerce. Qui réunit des magistrats, des avocats, des personnalités du monde politique ou de la haute administration. Et le club s'appelle Chocolat au palais au pluriel, pour jouer sur le mot palais.
Merci Daniel Manteau. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Le Chocolat, publié aux éditions Aubanel et illustré par des photographies de Jean-François Mallet. À lire également Le Larousse du chocolat de Pierre Hermé. Vous avez pu entendre des extraits des films Charlie et la chocolaterie de David Wolper, disponible en DVD chez Warner Bros, Vatel de Roland Joffé aux éditions Gaumont Columbia, et À tout jamais, une histoire de Cendrillon d'Andy Tennant, disponible en DVD chez 20th Century Fox. Ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Julien Chabassu et Éric Morin, documentation Claire Tesser, Camille Pouc-Jalaguier et Mathieu Ménossi, une réalisation de Anne Kobilac.